Quand je pensais à ce que ce livre pourrait m'amener, je me suis dit, tiens, sûrement des belles discussions avec mon éditeur. Parce que c'est lui qui a choisi le texte, donc forcément, on devrait avoir des discussions sur tel ou tel choix, l'intention derrière une phrase, des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être, s'il se rend jusque-là, des beaux échanges avec les lecteurs ou les lectrices. J'ai plus honte de le dire, mais jamais j'ai pensé au libraire. Jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi les gens qui m'ont mis à plus d'une reprise les larmes aux yeux, il y a souvent eu des libraires. Et voilà, je pense que quand j'écrirai le deuxième roman, je penserai un peu plus à eux.
Bienvenue à la librairie Cochot qui met en valeur le travail des libraires. Voici votre animateur, René Cochot.
Bien le bonjour tout le monde, je m'appelle René Cochot et j'ai la grande joie de vous accueillir à cette émission littéraire, la librairie Cochot. Nous vous avons préparé une émission fort chargée cette semaine. En voici le menu. Une entrevue avec Sylvain Descours, propriétaire de la librairie Appalaches à Sherbrooke. Isabelle Dion de la librairie Anénorak commente le livre « Tiens ta langue » de Mathieu Tétrault, publié chez La Peuplade. François-Alexandre Bourbeau de la librairie Liber à New Richmond nous parle des livres à surveiller pour cette nouvelle rentrée littéraire. David Lessargagnon de la librairie Appalaches commente la BD « Grizzly Jam » de Alice Chemama, publié aux éditions d'Argo. Anthony Lacroix de la librairie Boutique Vénus à Rimouski nous dit ce qu'il aime le plus de son métier. Léonie Boudreau, copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs de Sherbrooke, nous dit ce qui l'a amené à devenir libraire. Une entrevue avec Tellison Aurélien concernant son roman « C'était ça, au mourir » paru aux éditions du Boréal. Et les archives nous transportent en 1980, alors que trois enfants passionnés de lecture rencontrent le libraire Max-Philippe Delatte dans sa librairie parisienne. Bienvenue à la librairie Cochot.
Une clochette tinte, la porte s'ouvre doucement. J'ai préparé le thé, j'ai rangé les rayons. Un client entre ici, le regard un peu brisé. Je lui tends un ouvrage, pour vous, c'est offert. Il repart en silence, les larmes aux yeux. Moi je reprends ma place, je vis ma vie tranquille. Mais les rumeurs s'envolent bien plus vite que le vent. Ils disent que je murmure des secrets aux démons, que mes pages sont sacrées, que ma boutique est un temple. Moi je dis simplement, payez à la caisse s'il vous plaît. Hyène du dieu noir, pasteur des étoiles, auteur du culte, héros de la folie. Non, je suis juste Linji, un libraire ordinaire qui vend des mots d'espoir dans un monde en colère. Je ne suis pas leur dieu, je ne suis pas leur chien, juste un homme qui sourit et qui sert du thé. Mais si vous voulez croire que je commande aux abîmes, prenez un parapluie avant que tout ne s'abîme. Il m'apporte des offrandes, des fruits, des parchemins. Il cite l'évangile, parle de rites divins. Je leur dis, c'est un roman, voyez la page 3. Ils tombent à genoux, ils implorent ma voix. Je pose mes écrits, bien rangés sur l'étagère. Eux, ils lisent des prophéties qui fissurent la terre. Le bouche à oreille tourne, la légende prend feu. Chaque page que je tourne résonne comme un vœu. Moi, je cherche à survivre, à payer mon loyer. Eux voient un dieu antique qui s'apprête à régner. Hyène du dieu noir, pasteur des étoiles, auteur du culte, héros de la folie. Non, je suis juste Linji, un libraire ordinaire qui vend des mots d'espoir dans un monde en colère. Je ne suis pas leur dieu, je ne suis pas leur chien, juste un homme qui sourit et qui sert du thé. Mais si vous voulez croire que je commande aux abîmes, prenez un parapluie avant que tout ne s'abîme.
J'ai tenté d'expliquer, j'ai sorti mes factures. Regardez, c'est un commerce, je ne vends que des livres. Mais plus je me fais humble, plus le mythe s'épaissit, comme un écho perdu dans les couloirs sans fin. Alors je souris, je resserre une tasse et je laisse l'univers tisser sa propre histoire. Hyène du dieu noir, pasteur des étoiles, auteur du culte, héros de la folie. Non, je suis juste Linji, un libraire ordinaire qui vend des mots d'espoir dans un monde en colère. Je ne suis pas leur dieu, je ne suis pas leur chien, juste un homme qui sourit et qui sert du thé. Mais si vous voulez croire que je commande aux abîmes, prenez un parapluie avant que tout ne s'abîme. Merci de votre passage. Revenez quand vous voudrez.
Bruit de page, clochette.
Vraiment, je ne suis pas leur chien. Juste un libraire. Mais la prochaine fois, lisez les petites lignes.
À la librairie Cocho, on poursuit nos entretiens avec des libraires et on peut être libraire comme employé dans une librairie, mais on peut également être propriétaire d'une librairie et c'est le cas de mon invité de cette semaine, Sylvain Descours de la librairie Appalaches. Bonjour Sylvain.
Bonjour René.
Sylvain, certains diront que lorsque tu t'es lancé dans cette belle aventure, il y en a qui devaient se dire « mais quelle idée ». Mm-hmm. Ou est-il téméraire à ce point? Est-il naïf ou ultra courageux? Parce que tu as lancé la librairie Appalaches, tu as ouvert cette librairie en pleine pandémie, ouais, pendant la COVID.
Effectivement.
Quels étaient les commentaires que tu recevais au moment où tu as annoncé là, que tu avais l'intention d'ouvrir cette librairie?
C'était très partagé, on va dire. Effectivement, il y a du monde qui essaie de m'en dissuader, peut-être moi-même.
Oui.
Peut-être que moi-même, j'essaie de me dissuader d'eux. Mais oui, c'était très partagé. En fait, il y avait, en fin de compte, quand j'ai voulu commencer à ce projet-là, il n'y avait pas encore la pandémie. Là. Tu sais, admettons, j'ai réfléchi à ça en décembre, peut-être 2019. Puis j'ai commencé à faire mon plan d'affaires, par exemple, en janvier 2020.
Oui.
Donc, pandémie, c'était février-mars, quelque
c'est
chose
ça,
comme ça.
Exactement. Donc... oui, d'accord.
Voilà, voilà. J'imagine que c'est quelqu'un qui ne voulait pas que j'ouvre une librairie qui a lancé ça, cette histoire de pandémie. Mais non, donc c'était très partagé. Quand même, il y a beaucoup de monde qui essayait de me dissuader d'eux. Moi-même, j'étais quand même hésitant, là, c'est certain. Là, c'est quand même un gros projet, puis ce n'est pas comme si j'avais ouvert d'autres librairies avant ça.
Ouais.
J'étais très motivé, puis j'avais quand même des avis des personnes qui m'encourageaient à... Donc, il a fallu que je fasse un choix, puis j'ai choisi peut-être les avis qui me correspondaient le plus, on va dire.
Ouais. Bon, préparer un plan d'affaires, j'imagine que ça prend quelques notions de base.
Mm-hmm, mm-hmm. Oui, ben en fait, il y a eu des organismes qui m'ont aidé, tu sais, au centre-ville à Sherbrooke, il y avait Progestion, etc. Donc, j'ai été encadré là-dedans. Puis ça a été un challenge parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail, puis c'est c'est comme il y a les envies, puis les idées de départ, puis la personne en face de moi peut me dire « ça, c'est pas une bonne idée » ou « il faut que tu travailles plus ça ». En fait, l'idée du plan d'affaires, c'est comme d'affiner le projet, mais aussi d'aller chercher des aides financières, d'aller chercher des financements, des prêts, etc. Mais ça avait du bon parce qu'il y a des idées qui ne tenaient pas la route, certainement, puis il a fallu faire des choix, puis se confronter à cette première réalité-là, dans le fond, c'est une nécessité.
Autre décision, c'est de t'installer au centre-ville, mm-hmm, de Sherbrooke, rue Wellington Nord. C'est une artère qui a des hauts et des bas. Je dirais plus de bas que de haut. Donc, ça aussi, c'est un choix qui était sans équivoque.
Certain, effectivement. Si, pour moi, la librairie, une librairie indépendante de proximité, etc., pour moi, ça va avec l'idée d'un centre-ville. Et inversement, certainement. Donc, la librairie, je la visualisais au centre-ville de Sherbrooke, c'est sûr. Puis même, j'irais plus loin en disant que peut-être si je n'avais pas trouvé de local au centre-ville, je n'aurais peut-être pas ouvert la librairie à Palache.
Okay.
Ouais, ouais. Pour moi, c'était, ça allait ensemble, puis c'est là que je voulais que ça se passe. Puis j'avais l'impression qu'il y avait un espace pour, puis une demande aussi dans les gens qui fréquentent le centre-ville, dans l'identité du centre-ville. Ouais, c'était un souhait très fort, effectivement.
Bon, entre le rêve mm-hmm. et la réalité, mm-hmm. est-ce qu'il y a une grosse différence?
Ben, c'est sûr que c'est... Après, comme on le disait tantôt, la réalité, je l'ai quand même entrevue au fur et à mesure que j'avançais dans le plan d'affaires. C'est un aspect de la chose. Mais c'est sûr, je n'imaginais pas que c'était autant de travail, c'est certain. Puis tout ce qui est charge mentale, on ne l'envisage pas. On ne sait pas comment on va gérer ça. Il y a aussi, même si j'avais de l'expérience là-dedans, c'est, dans les dernières années, j'avais quand même pas juste été libraire. Mm-hmm. J'avais travaillé occasionnellement là-dedans. J'ai un bagage, j'avais fait des sortes d'études semi-professionnelles là-dedans aussi. Donc, gérer une librairie, ça, je l'avais jamais fait. T'sais. Donc, j'ai eu des jobs auparavant où j'avais une sorte de gestion à faire. Mais c'est sûr que c'est beaucoup d'apprentissage. Puis, on apprend par rapport... Il y a le métier en soi, mais il y a la réalité aussi,
ouais.
Le contexte. On apprend par rapport à comment se positionner au centre-ville, c'est quoi les réactions, c'est quoi le type de public qui est là. C'est,
ouais.
Donc, ouais, beaucoup un bel écart. Puis dans le fond, j'ai l'impression que je suis encore en apprentissage.
Ouais. Oui, d'accord.
Cinq ans plus tard.
Bon, être propriétaire d'une librairie, bon, ça implique évidemment plusieurs charges administratives. Mais mm-hmm. est-ce que tu trouves le temps d'avoir le plaisir d'être le libraire conseiller?
Oui, ben effectivement, ça, c'est très important. Puis je trouve que j'ai un meilleur équilibre, là, quand je parlais il y a quelques secondes d'apprentissage, là, dernièrement, là, on va dire dans les deux dernières années. Les trois premières années, effectivement, j'essayais de concilier les deux. J'avais beaucoup d'apprentissage. Aussi, pour être tout à fait franc, j'avais une sorte de petit syndrome de l'imposteur, là, on va dire.
Ah ouais.
Okay. Ouais. Donc, tu sais, c'était comme d'apprendre, de prendre mes marques, de m'approprier ce projet-là. Donc, je voulais être sur le plancher. Je voulais conseiller les gens, je voulais être au contact du public, puis des livres, etc. Mais il y avait tout un aspect administratif, etc. Dans la comptabilité, dans l'intégration, dans la gestion, on va dire, en général.
Mm-hmm.
Ça, j'ai appris à le déléguer parce qu'on est une bonne équipe. Donc, j'ai comme appris à faire confiance aussi, puis tu sais, comme à lâcher prise sur certaines choses, à accepter de ne pas maîtriser tout de A à Z, puis à faire confiance à la personne qui va s'occuper de ça.
Bon, qui dit librairie dit activité reliée aux livres. Et mm-hmm. moi, ce qui m'impressionne à la librairie Appalaches, c'est le nombre important d'animations, d'entrevues d'auteurs.
Mm-hmm.
L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être uniquement libraire sans tenir ce genre d'activité?
Ben, j'imagine que oui. J'imagine qu'on peut. Mais sauf que moi, c'est quelque chose que j'avais envie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Là. En fait, il y a l'événement en soi, mais il y a tout ce qui se passe avant. Organiser
oui.
l'événement avec les auteurs, les autrices, les maisons d'édition, c'est quelque chose de très, très enthousiasmant. J'aime beaucoup ça. Mais effectivement, au début de la librairie, quand on posait ce genre de questions-là, avant même que la librairie ouvre, j'avais une sorte un petit peu de narratif, on va dire. Et puis c'était quelque chose que je pensais, c'est-à-dire que si, admettons, il y a un auteur, une autrice qui veut faire son lancement à la librairie, comme par exemple une fois par mois, avant un lancement une fois par mois, je serais très heureux d'eux. Là, on est plus en haute période à 2-3 par semaine,
ouais,
là, on va dire. Là. Donc maintenant, en fait, ça fait vraiment partie de l'identité de la librairie, je pense. Puis j'ose croire que la librairie a une bonne réputation dans ça, que ce soit auprès des lecteurs, lectrices, mais aussi auprès des maisons d'édition, de tout microcosme du livre qui, d'abord, ça peut venir de moi, une proposition d'événement, ça peut venir, mais aussi ça peut venir de l'auteur, de la maison d'édition qui est, hey, Sylvain, est-ce que ça te tenterait qu'on fasse le lancement à la librairie Appalaches? Et même, des fois, ça arrive que c'est quelqu'un, un ou une amie de la librairie qui achète ses livres à la librairie, qui dit hey, « Moi, j'ai lu ça, ça vous tente d'inviter l'auteur, je vais animer. » T'sais, donc, mm-hmm. c'est super.
Quoi. Ben oui, ouais. Tout à fait. Et dernière question, Sylvain Descours, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de te lancer dans cette aventure qu'est de devenir libraire?
Ben, je peux m'allonger, on va faire de la psychanalyse. Non, mais quand je disais, j'ai fait, quand j'avais la vingtaine, j'ai fait une sorte de, je dis une sorte, mais non, une formation semi-universitaire, c'est-à-dire que c'était universitaire, mais avec des stages dans le milieu du livre, métier du livre. Puis là, on avait des professeurs qui eux-mêmes étaient éditeurs ou libraires, donc je pense que c'est ça qui m'a... J'ai des bons contacts par rapport à du monde qui nous apprenait leur métier de cette façon-là, puis qui étaient des professionnels. Donc, j'imagine que l'idée a germé là. Puis, les librairies, c'est toujours un lieu où je me suis senti bien, apaisé, etc. Puis, je trouvais que c'était une belle mission. Donc, c'est venu de là, certainement. Puis, c'est un goût pour les livres, qu'ils soient sous différentes formes, le roman graphique, la bande dessinée. Puis j'avais l'impression que même s'il y avait une librairie, des librairies à Sherbrooke, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une place à prendre, une place pour une librairie au centre-ville, un commerce de proximité. J'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Donc, j'ai voulu me faufiler dans cette brèche-là qui était en fait un lieu très accueillant.
Eh bien, Sylvain Descoux, propriétaire de la librairie Appalaches, rue Wellington Nord à Sherbrooke. Merci beaucoup et puis bravo donc, ben, pour cette belle réussite.
Merci à toi, René. Merci.
Écoutons Léonie Boudreau, copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs de Sherbrooke.
Qu'est-ce qui m'a conduit vers le métier de libraire? Bien, en fait, c'est que moi, j'ai fait un bac en enseignement du français au secondaire. Et mon but avec ce bac-là, c'était de donner le plaisir de lire aux jeunes. Puis, en faisant le bac, je me suis rendu compte que donner le plaisir de lire aux jeunes, ça me tentait toujours. Mais l'enseignement, non. Donc, j'ai trouvé, en fait, que ce que je voulais, c'était vraiment donner envie de lire, mais pas par le biais de l'enseignement. Puis je me suis questionnée, qu'est-ce qui peut faire ça? Puis moi, dans la vie, j'ai toujours aimé conseiller. Quand je travaillais dans un restaurant, puis que les gens disaient, qu'est-ce que tu me conseilles? Là, j'étais comme, yes, OK, je vais pouvoir leur dire qu'est-ce que j'aime le plus. Et je me suis dit, bien, c'est la même chose pour les livres, en fait. Quand les gens savent pas quoi lire, puis qu'ils arrivent chez moi, puis qu'ils me demandent, tu pourrais-tu me prêter un livre? Bien là, je partais, tu sais, puis j'avais le goût de leur conseiller, puis je me disais, bien, c'est ça que je veux faire dans la vie, en fait. C'est recommander des livres aux gens. C'est donner le goût de lire, donner envie que les gens lisent les livres que j'ai aimés parce que je les ai aimés, puis leur donner cette envie-là. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire ça. Par le fait même, je me suis dit, ben j'ai envie d'être ma propre boss, fait que j'ai décidé d'ouvrir ma librairie. Donc, ça a été ça qui m'a conduit vers le métier de libraire, en fait.
Noir. Je suis souvent d'humeur. J'ai des idées. Parfois je bois du. Ma poésie est. Je suis souvent d'humeur. J'ai des idées. Parfois je bois du.
Elle est libraire à la librairie Aninorak et elle se spécialise dans la littérature autochtone. Isabelle Dion.
Bien le bonjour, Isabelle Dion.
Bonjour.
Isabelle, cette semaine, tu as choisi de nous parler d'un livre d'un auteur manitobain, Mathieu Tétrault. Et c'est un métis et c'est aux éditions La Paplade et ça a pour titre ce livre... Tiens ta langue. Alors, je vais taire la mienne pour laisser la tienne nous parler de ce livre.
Oui, ben c'est vrai que le titre est intriguant, puis il met vraiment la table pour la thématique centrale de la langue dans ce livre-là, mais mm-hmm. J'y reviendrai un peu plus tard.
Okay.
Donc, l'histoire, elle est assez simple. Donc, on est à Sainte-Anne-des-Chênes, au Manitoba. Il y a le personnage de Richard qui apprend que son grand-oncle est sur le point de mourir. Il est à l'hôpital, il est vraiment en fin de vie. Et ce drame dans la vie de Richard va le conduire à revisiter le passé de sa famille métisse parce qu'en fait, son grand-oncle est pas mal le dernier détenteur un peu du savoir et de la culture métisse dans sa famille. Donc, un roman d'apprentissage, un coming of age aussi, là, puisque le personnage est jeune et tout. Donc, assez simple comme, comme histoire. Par contre, ce que j'ai trouvé de très particulier, c'est que c'est vraiment une expérience qui est inspirée de celle de l'auteur. Mathieu Tétrault, c'est un professeur d'études autochtones à l'Université du Manitoba qui a grandi justement à Sainte-Anne-des-Chênes. Et il le fait sous forme de roman, mais on pourrait dire ça comme un récit. Donc, c'est un peu sa recherche, en fait, sa quête identitaire qui nous offre à travers le personnage de Richard. Et je trouve que c'est un livre qui donne vraiment à ceux qui ont trop longtemps pas eu de voix, il donne finalement le droit de parole et c'est absolument exceptionnel. Et ce qui est assez particulier de ce livre-là, et on s'en rend compte dès les premières pages, c'est qu'on mélange vraiment le français ou le titre. Donc, on mélange vraiment le français, le franglais aussi, et le Mi'kmaq. Le Mi'kmaq, c'est la langue qui est parlée par les Métis. Et dans ce livre-là, elle est vraiment adaptée par la traductrice qui s'appelle Luba Marcoskaya. Bon, assurément que je le prononce mal, mais elle s'est entretenue de longues heures avec Mathieu Tétrault pour qu'il puisse convenir d'une façon de bien adapter en français les particularités linguistiques de ce livre-là, parce que ça fait partie intégrante du projet et de l'intérêt de ce livre-là, c'est-à-dire cette imbrication, ce mélange culturel et ce mélange de langues qui, finalement, est très représentatif de la culture métisse à cet endroit-là, au Canada. Donc, c'est vraiment un roman qui a beaucoup de charme, des personnages qui sont authentiques, qui sont touchants. Et je trouve que Mathieu a cette capacité-là de nous transporter à travers le temps, mais aussi apporter une réflexion, un questionnement sur c'est quoi une identité multiculturelle de nos jours, comment dans le monde on peut vivre ça. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, on en apprend vraiment beaucoup sur un pan assez méconnu de l'histoire du Canada, c'est-à-dire de l'histoire métisse du Canada, parce que les Métis, c'est un des trois peuples autochtones du Canada. Donc, les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Donc, c'est souvent, les Métis sont peu représentés en littérature de un et peu représentés dans l'histoire aussi. Donc, c'est une façon d'en apprendre plus. Et pour l'auteur, j'imagine aussi de se réapproprier son histoire, la grande histoire et la petite histoire. Donc.
Ben, on va remercier les éditions La Peuplade de nous faire découvrir cet auteur et cette réalité.
Oui, tout à fait. Je trouve ça super. Ben, La Peuplade, c'est une maison qui est audacieuse. C'est connu. Mais ce titre-là, c'est vrai que c'est un défi de traduction incroyable. Et je trouve que c'est un pari qui a été remporté haut la main par la traductrice. C'est très réussi.
Ben voilà. Alors, tiens ta langue, Mathieu Tétrault. On prononce ça comment? Tétrault ou Tétrault?
Ben, je pense que les deux disent, là, normalement, probablement qu'il faudrait dire Tétrault, mais j'aime ça, ça dit bien.
Ben oui. Hein? Donc, aux éditions de La Peuplade. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci.
Écoutons François-Alexandre Bourbeau, libraire à la librairie Libère à New Richmond.
Que pensez de la rentrée littéraire actuelle? Est-ce qu'il y a un titre, par exemple, à ne pas manquer? On dirait que l'offre de nouveautés propre à chaque période de rentrée littéraire grandit sans fin. C'est joyeusement étourdissant. Un des plaisirs coupables de remplir des grilles de commandes, de précommandes en fait des nouveautés, ça s'appelle les prénotés, c'est de savoir ce qui s'en vient dans le demi-secret. Ça, on sait généralement un 3 mois à l'avance, là, avant qu'un livre soit mis en marché. Donc, un titre à ne pas manquer, ben moi, j'attends avec impatience le nouveau Christian Guépoliquin, Le Mur. Il y a le nouveau Dominique Fortier également, Chambre Noire. J'attends aussi avec impatience le nouveau tome de la série BD Lightfall, le 4e tome. Puis, je suis tombé par hasard sur une nouveauté que j'ai découverte tout bonnement qui s'appelle L'architecte romaine de Melania G. Mazzucco. Et ça semble assez fabuleux, merci. Donc, c'est pas un livre que je surveillais autant qu'il me soit tombé dans l'œil, qui me donne vraiment hâte de le découvrir.
J'ai la plume la plus triste de ma ville. On marche seul à force d'avoir des fenêtres, on regarde en bas. Trop précoce, on se prend la gueule, on fait des gosses qu'on garde pas. L'époque va mal, pour bâtir dessus, j'ai pas de plancher. Déçu quand j'écris ça, j'ai pas mangé. C'est pas la fête, mais c'est pas grave. Tout va se tasser, c'est ce que je me dis en refaisant mes lacets quand je sors gardave. De toute façon, j'suis qu'une broutille parmi les os. J'serais qu'un décès de plus, une fourmi parmi les autres. Au final, j'parle de la vie de plein de gens. On évite le bain de sang. On s'y bat, tout va trop vite, mais rien ne change. Le problèmes se cachent peut-être dans nos pères. Amer et mon langage, je suis un poète et temps moderne. Au final, je parle de la vie de plein de gens. On évite le pain de sang. Ici, bas, tout va trop vite, mais rien ne change. Le problème se cache peut-être dans nos pères. Amer et mon langage, je suis un poète et temps moderne.
Le temps de lire quelques pages et votre animateur René Couchot sera de retour.
De chaque côté de l'océan, la parole nous traverse. C'est alors qu'on se rencontre. C'est alors qu'on se rend compte. C'est juste de la poésie.
C'est juste. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui coule n'est pas de l'eau. Dès lors, les flots charrient leur lot de larmes, de silence et d'écho. On ne naît pas tous sur le même bateau, mais les courants nous poussent sur les mêmes rivages. On s'arrime aux mêmes images, quand l'encre et le stylo. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il y a des pertes de vie qui s'évitent.
Cette poésie était juste une petite trace qui nous reste, qu'on voit toujours, même quand elle s'efface. Comme un souvenir, une image, mais aussi comme une envie, un projet, une proposition, un bout d'espoir qui prend vie. Et si l'art était juste un moment d'émotion où l'aiguille de l'horloge suspend sa rotation, alors l'heure aura tort face à l'art oratoire et les cœurs en accord réécriront leur histoire. Et si toute cette féerie n'existait que dans nos têtes, que la vie poursuivait son cours tranquillement derrière nos fenêtres. On ne changera rien au monde, le croire serait une hérésie. Ce n'est qu'un moment entre nous, c'est juste la poésie.
C'est juste, juste la poésie. Faut pas s'en faire, on ne va rien changer. Mais ça ne change rien. Tout ce qu'on veut faire, c'est juste la poésie. Lire dans ma main, à double interligne, y voir le signe d'un chemin littéraire, lever le pouce sans itinéraire, filer où la mine mène, au fil du courant, prendre mon temps. C'est souvent le doute, loin des temps, la route à suivre entre les tempes.
C'est juste, juste la poésie. Faut pas s'en faire, on ne va rien changer. Mais ça ne change rien. Tout ce qu'on veut faire, c'est juste la poésie. C'est juste la poésie.
Vous écoutez l'émission littéraire La librairie Couchot.
Du passage couvert entre un tailleur et un café, il y avait une librairie que peu de gens semblaient chercher. Les étagères montaient si haut qu'il fallait une échelle en bois, et l'horloge près de la caisse avançait plus lentement que les autres, je crois.
À la librairie du passage, les après-midi s'envolaient entre les romans de voyage et les pages qu'on feuilletait. À la librairie du passage, on venait souvent sans raison et l'on repartait avec un livre et une saison dans les mains. Tu lisais les premières lignes debout près du rayon poésie, comme si tu voulais écouter la voix cachée dans chaque livre. Le propriétaire connaissait tout des auteurs et des éditions. Il parlait des livres anciens comme de vieux amis de longue date. À la librairie du passage, les après-midi s'envolaient entre les romans de voyage et les pages qu'on feuilletait. À la librairie du passage, on venait souvent sans raison et l'on repartait avec un livre et une saison dans les mains. Certains lieux ne font pas de bruit, ils nous accueillent simplement et deviennent avec les années une partie de notre histoire discrètement. À la librairie du passage, je retourne encore quelques fois. L'échelle est toujours contre le mur et la clochette sonne encore, je crois. À la librairie du passage, le temps semble toujours ralenti, comme s'il voulait laisser les livres finir doucement leurs souvenirs. La porte se referme derrière moi et la rue paraît un peu plus rapide.
Parmi les romans qui ont un énorme succès en librairie, on retrouve « C'était ça ou mourir » de Télisson Aurélien, paru aux éditions du Boréal. L'histoire est la suivante. Prof d'histoire et de géographie à Carrefourfeuille, un quartier densément peuplé de Port-au-Prince, Jonas est contraint de quitter sa maison. Dans les rues, des coups de feu, des flammes le somment de partir sans regarder derrière. Il n'emporte presque rien, son diplôme, un cahier de poèmes, une photo de sa mère et un slip propre. Sa vie entière dans un sac de plastique. J'ai reçu Télisson Aurélien pour la librairie Cochot. Voici un extrait de cet entretien. Bonjour, Monsieur Aurélien.
Bonjour.
En racontant l'exil forcé de ce professeur haïtien, vous cherchez d'abord et avant tout à humaniser le parcours des personnes migrantes et à nous conscientiser face à leur réalité. Et c'est très concret, là, ce que vous rapportez, parce que vous avez rencontré bon nombre de migrants.
Oui, c'est très concret. Et oui, c'est aussi une question de style, la manière de raconter tout ça. Mais c'est beaucoup de travail, parce que écrire, c'est jamais facile, parce qu'on veut que le message qu'on apporte, on veut que ça sonne juste, on travaille le texte et tout. Il y a aussi cette partie où la part d'humain dans le texte et le personnage, c'est quelqu'un de très humain qui raconte son histoire, même quand il parle à la première personne, mais il raconte aussi l'histoire de toute une multitude de personnes, des personnes qu'on pourrait appeler les Jonas de ce monde, des personnes à l'instar de lui-même. Voilà, je pense que ça aussi, c'est peut-être la force du roman. Et voilà, je voulais vraiment aborder cette histoire de manière très humaniste, parce que c'est un roman qui parle d'humanité.
Absolument. Je vais donner un exemple ici de votre style qui rend compte de cette réalité. Un migrant qui passe une frontière, c'est comme un serpent qui se glisse sous un tapis. Ça rampe, ça tremble, ça prie, ça ment, et à la fin, soit il ressort vivant, soit il reste écrasé sous la semelle du monde. Ça résume bien des choses, là, ce simple extrait. Là.
Oui, ça c'est toute la tragédie de la migration, parce qu'on veut on veut sauver sa vie. Dans le premier temps, c'est comme vous venez de le dire, on glisse, on laisse son pays, on part en fuite, on veut avancer, parfois ça ment, mentir, ne serait-ce que pour ne pas mourir, pour sauver sa vie, pour sauver sa peau. Parce que des fois, il faut, pour traverser des frontières, soit on change son identité, parce qu'on n'accueille pas tel ou tel type de personnes, des fois on passe pour quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des choses que les migrants, c'est leur tragédie en soi. Voilà, c'est ça.
Est-ce que je me trompe ou si, en quelque sorte, c'est comme si vous vous étiez approprié la douleur de toutes les personnes que vous avez rencontrées qui ont vécu là, ces exils, ces gens qui ont tout perdu, en fait, qui ne savent pas vraiment ce que leur avenir leur réserve, où ils vont?
Oui, il y a une sorte d'appropriation. Mais c'est fait avec tout respect parce que il était question pour moi d'aller rencontrer ces gens-là, pas seulement approprier leur histoire, ou du moins c'est juste pour... Parce que dans tout ça, il y a aussi des choses qui ont été inventées, la partie et fiction dans l'histoire, mais par respect pour tous ces tragédies-là, pour toutes ces histoires-là, il était question pour moi d'aller trouver le vrai dans l'affaire, d'aller un peu partout, soit aux États-Unis, à Montréal, d'aller rencontrer différents migrants, parce qu'il y a plusieurs histoires. Et pour pouvoir raconter l'histoire de Jonas en toute justesse, pour ne pas trahir son histoire. Et voilà, c'est une appropriation, mais une appropriation qui est faite dans le respect pour ces gens.
Absolument. Vous avez rencontré, entre autres, des migrants haïtiens, cubains, togolais et bangladais. En fait, vous témoignez là, de cet exil et vous dites que ça dépasse le déplacement géographique. En fait, ces personnes exilées, c'est un peu leur enfance, leur langue, leur innocence qu'elles perdent. Là.
Oui, parce qu'il n'y a pas seulement le lieu. Quand on laisse un pays pour aller vers un autre, c'est comme si on partait vers l'inconnu. Et il faut s'adapter, il faut... Voilà, c'est ce qu'on demande. Il y a des choses qui vont rester en soi, mais parfois c'est une fuite aussi. On fuit beaucoup de choses, sa langue, son pays, ses souvenirs et tout. On doit tout laisser derrière et pour redevenir quelqu'un d'autre. Et la leçon aussi qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ici, on n'est pas encore au paradis, mais c'est peut-être là que Jonas a trouvé son arbre de paix. Et c'est aussi l'accueil qu'on donne aux autres. Et c'est l'accueil aussi que moi, j'avais reçu aussi en 2010, après le tremblement de terre et tout. Le livre aussi, pour moi, c'est quelque chose que j'ai lancé aussi, une sorte de, je ne vais pas dire de sorte de déclaration d'amour, mais c'est mon témoignage aussi pour tout ce que j'ai reçu du Québec. On se ressemble là-dessus, dans l'exil qu'on a fait, mais c'est peut-être pas mon histoire, mais quelque part, nous sommes deux exilés. Et je voulais aussi que le lecteur retienne ça. Et voilà.
Télisson Aurélien, ça a été un plaisir de discuter avec vous de ce magnifique roman « C'était ça ou mourir » publié aux éditions du Boréal. J'encourage les gens à lire ce roman, même à le relire, parce que au-delà des nouvelles et des chiffres, il y a des humains qui souffrent. Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Une autre chanson finie, un autre amour incompris. C'est un poème, un retour aux aveux. Le moment brûle. We'll be right back.
sur les nouveautés littéraires.
Un nouveau livre pour Élisabeth Lemay. Dans une boutique, Élisabeth Lemay remarque un écriteau accroché au-dessus de la tête de la caissière. On peut y lire « L'employé est une personne ». Ces mots lacidèrent. Comment diable en est-on venu à devoir rappeler aux gens que les corps ont une âme? Chacun des 7 textes de son recueil nous invite à retrouver cette humanité trop souvent perdue de vue. On écoute Catherine Ostigui, éditrice chez Boréal.
Bon, évidemment, vous connaissez Élisabeth Lemay, qui a remporté le prix Jeannette Bertrand cette année pour L'été de la colère, qui a fait beaucoup parler d'elle dans les médias dans la dernière année également. Elle nous arrive avec un troisième livre qui est en fait une collection de 7 courts essais sur plusieurs sujets. Elle reprend les thèmes qui font sa marque, bien sûr, les relations hommes-femmes, le patriarcat, le féminisme. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce troisième livre, c'est qu'elle ose explorer de nouveaux territoires. Elle ose aussi se mettre en danger, se rendre vulnérable. Il est beaucoup question de son rapport au corps, à l'image, de l'apparente incompatibilité entre sa carrière d'autrice et l'image qu'elle projette sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il est question d'empathie, il est question de son rapport à la vieillesse, il est aussi beaucoup question de son rapport à l'écriture et à la littérature qui l'ont accompagnée toute sa vie. Elle signe aussi un vibrant hommage à Nelly Arcand, à qui on la compare encore et encore. Donc, pourquoi ne pas aller là aussi? Dans ce troisième livre-là, elle ne s'assagit pas. Elle prend de l'assurance, au contraire. Elle affine sa plume. Elle ose aller dans des zones inconfortables, tant pour elle que pour nous. Et c'est pour cette raison, je pense, que la parole d'Élisabeth Lemay est importante. Elle nous rend inconfortables. Elle secoue nos a priori et elle nous force à examiner comment ces mots heurtent ou confrontent nos propres positions. Elle le dit elle-même dans son livre, « Mon écriture me ressemble, elle est d'une impudeur encombrante ». Alors, je vous invite à découvrir ces 7 essais qui se lisent comme des grands verres d'eau rafraîchissants.
Voici quelques nouvelles littéraires.
Selon le Courrier international, de moins en moins d'Allemands écrivent des romans. Selon un décompte, 80 % des premiers romans parus au printemps ont été rédigés par des femmes. Longtemps dominé par les hommes, le monde de l'édition se féminise de plus en plus, une tendance qui se manifeste d'une manière encore plus marquée en Allemagne. Les données révèlent qu'au printemps 2026, 35 premiers romans ont été publiés dans les collections principales de 10 grandes maisons d'édition, 7 par des hommes, 28 par des femmes, soit exactement 80 %. Un changement de taille dans un pays qui possède toujours l'un des plus importants marchés littéraires d'Europe. Un article du journal Le Devoir révèle que les ventes de romans historiques parmi les plus populaires dans la province ont chuté de 34 % en 2025. Les ventes de romans historiques faites par des éditeurs québécois ont chuté de 34 % en 2025 par rapport à 2024. Le lectorat du roman historique québécois est surtout constitué, depuis le tournant des années 90, par des personnes de plus de 60 ans. Selon l'article du Devoir, il y a une douzaine d'années, Saint-Jean Éditeur vendait autour de 32 000 exemplaires des livres de Louise Tremblay-Desciambre. Aujourd'hui, ce serait entre 18 et 22 000. Aux éditions Urtubise, même son de cloche. Les grandes années du roman historique se sont vécues au tournant des années 90 avec les Hélène de Champlain et La poussière du temps. En 2024, 12 romans historiques québécois ont fait plus de 2000 ventes, précisons du côté de Urtubise. En 2025, il n'était que 2 à atteindre ce chiffre.
Un libraire, c'est quelqu'un qui a toujours un livre d'avance.
La petite librairie au coin de ma vie, la petite librairie vit encore aujourd'hui. Les rêves d'hier, les mots de lumière, la petite librairie reste dans mon couleur.
Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de bande dessinée. David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches.
David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches, bonjour.
Bonjour René.
Cette semaine, on va s'intéresser à un animal qui fait peur à bien des gens. On n'en a pas chez nous dans nos forêts, mais si on va dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest américain, là, il y en a. On parle du fameux grizzly.
Grizzly.
Attention, vous entrez en pays grizzly. Restez vigilants. Qui que vous soyez, votre sécurité n'est plus assurée. C'est ce qu'on lit sur la quatrième de couverture d'un album d'une bande dessinée qui a pour titre Grizzly Jam. C'est de Alice Chemama. Et j'ai jeté un coup d'œil lorsque tu m'as prêté cette bande dessinée. Et j'adore le dessin dans un premier temps, mais les couleurs, c'est vif, c'est dynamique.
Oui, tout à fait. Effectivement, la quatrième couverture a cette réclame pour le moins inquiétante. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une pancarte, donc à Yellowstone. C'est une bande dessinée qui se déroule dans le parc national de la Yellowstone aux États-Unis, qui est en pays grizzly. Donc, il y a beaucoup de grizzly. C'est une réserve de grizzly. Yellowstone, premier parc national américain, endroit légendaire, à l'ambiance tout à fait particulière. Et donc, cette bande dessinée nous raconte un été de Marcia. Marcia, une fille de l'Est du pays. Elle arrive là pour travailler pendant quelques semaines, tout un été, dans un ensemble de cabines, là, un resort qui offre du logement semi-sauvage, là, juste à côté du parc de la Yellowstone. Elle n'est pas si à la recherche d'elle-même, mais en même temps, ou disons que cette recherche est peut-être molle, mais elle a envie de mordre dans quelque chose, manifestement. Et elle arrive là-bas, dans ce paysage fantastique, époustouflant, renversant, et elle y fera la rencontre d'un garçon qu'au début, elle prend pour un garde forestier, puis là, tu sais, un ranger, là, avec toute l'espèce de gloire qu'on peut, toute américaine qu'on peut sentir autour d'un titre comme celui-là. Ouais. Mais non, finalement, c'est juste un gars qui s'occupe des sanitaires. T'sais. Donc, il n'y a pas le drame de... Ils vont se lier d'amitié et commencer à faire beaucoup de randonnées ensemble. Lui, c'est un type qui travaille de manière saisonnière dans trois parcs comme ça. Dans le fond, c'est ce qu'il fait. Il est à l'emploi de Yellowstone à telle époque de l'année. Il est à l'emploi de telle autre partie de l'année.
Okay.
Puis il tourne comme ça, dans un mode de vie qui est complètement tourné vers la nature, dans la connexion. Tu sais, comme oui, il y a une job un peu pragmatique là, de s'occuper des sanitaires puis de faire le ménage dans ces endroits-là.
Ouais, c'est pas un emploi intellectuel.
C'est pas un emploi intellectuel, mais par contre, ça lui donne accès à une vie dans la nature, une vie où il est toujours en train de marcher dans la forêt, tout ça. Mm-hmm. Puis on connaît les bienfaits que ça peut avoir sur une âme de toujours se promener en forêt comme ça. Et donc, ils vont tisser une amitié, un flirt quand même aussi, au fil de cet été. Et donc, Marcia va en apprendre sur l'histoire du parc, va en apprendre sur sa situation actuelle aussi. C'est un parc au flot touristique ahurissant, là. Fait qu'il y a comme un paradoxe d'une nature qui se veut virginale à quelque part, puis en même temps qui est constamment foulée par une foule de touristes qui agissent de manière robotique ou très prévisible. T'sais, ils font tous la même chose, les touristes passe, on le sent, il y a beaucoup un commentaire dans la bande dessinée là-dessus où les scènes avec beaucoup de touristes, il y a vraiment un chaos, un caractère insipide. Je voulais me risquer à dire le nom, l'insipidité.
Voilà.
Insipidité.
Voilà. Okay.
Tu l'as enregistré, là? Insipidité.
Oui, c'est fait.
l'insipidité de ces parcours-là, comme très touristiques, on arrive à un endroit, on prend la dite photo, puis on s'en va, tu sais, en voulant aller vers la prochaine place où on va prendre la dite photo. Donc, il y a un commentaire quand même là-dessus aussi. Et comme tu le disais d'emblée, René, là, les couleurs, le dessin est tout à fait bien rythmé, sympathique.
Ouais, ouais.
C'est très rond. Il y a quelque chose de rétro, mais pas rétro, là, je trouve, dans tout ça.
Ouais.
Mais l'utilisation de la couleur est effectivement super intéressante. C'est vif. Les paysages yellowstoniens sont fantastiques. Là.
Ouais,
il y a
absolument
quelque chose à couper le souffle dans la page qu'elle nous propose. Une belle bande dessinée, très intéressante, bien menée, qui nous fait penser peut-être, oui, à nos parcours, à nous, à quel moment on s'est donné peut-être la possibilité de faire autre chose ou ce genre de questionnement-là un peu. Puis Grizzly Jam,
oui, c'est ça, là.
Spécifiquement, c'est quand, justement, dans le parc, un touriste ou un groupe de touristes voit un grizzly, spot un grizzly, et puis là, au lieu d'être prudent, de faire preuve de déférence ou quoi que ce soit, ben en fait, les gens s'agglutinent. sa lutine, puis se rejoignent, puis là, regarde le grizzly, puis là, le prennent en photo, puis là, cherche des fois à l'approcher contre toute règle du bon sens.
Tout à fait.
Puis ça crée un jam. Il y a comme, il y a plein de voitures qui s'arrêtent, il y a plein de gens qui sont comme stoppés à un endroit. Ça crée un bouchon. Et c'est à ce moment-là que les Rangers arrivent, puis là, font régner la loi de
dégager.
De dégager, respecter le grizzly. Donc voilà, il y a toute une partie à la fin, une petite partie à la fin de la bande dessinée qui est plus documentaire, qui se veut vraiment, là on sort de l'histoire de Marcia, on est vraiment dans un ton bande dessinée, documentaire, reportage sur la Yellowstone, où on apprend des détails. Il y a de la redite un petit peu, mais c'est bon, c'est plus technique. On pourrait, si on est intéressé, d'abord par ces éléments documentaires, même à la limite, commencer par ces éléments-là, pour lire le récit par la suite, ça pourrait être quelque chose qui
l'aspect plus ludique. Et je remarque également qu'il y a de l'humour, parce que là, on voit le personnage... comment elle s'appelle déjà?
Marcia.
Marcia qui parle avec un grizzly.
Oui.
Vous savez, ça ne m'amuse pas de faire peur aux gens. Je sais que tout ça a à voir avec ma mère. Je vous ai déjà parlé d'elle, non? Oh, c'était une belle grizzly. Maintenant, c'est un tapis. Et là, on voit une fourrure d'un grizzly sur laquelle il marche. Et là, on le voit, le grizzly, en train d'utiliser TikTok ou Snapchat. Donc, il y a de l'humour aussi. Là.
Oui, mais je pense que Marcia, à ce moment-là, avait fait aussi d'autres genres d'expériences que celle de la randonnée nature. Là.
Ah, OK, c'est des hallucinations.
Ouais,
ah, d'accord. Ouais. OK, d'accord.
Tu sais, quand je parle de mordre dans quelque chose, là, elle a peut-être mordu dans quelque chose.
D'accord, alors voilà, c'est Grizzly Jam, c'est de Alice Chemama. Et c'est aux éditions d'Argo. Merci beaucoup, David.
Ça me fait plaisir. Merci, René.
Mon nom est Antoine Lacroix. Je travaille à la librairie boutique Vénus à Rimouski. La partie la plus gratifiante de mon travail, ben, c'est trouver le bon livre pour la bonne personne. Je pense que tout le monde va te dire un peu la même situation, donner le goût de la lecture ou raccrocher des gens à la lecture. Des fois, les journées sont un peu longues quand on manque de clients. Des fois, classer des livres, c'est pas nécessairement ce qui me rend le plus joyeux, on va dire, déplacer des boîtes. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est parler des livres que j'aime, que j'ai pas aimé, même débattre autour de livres, là, c'est vraiment l'aspect que je préfère. Avant, j'étais commis de bibliothèque à la ville pendant 3 ans, pendant la pandémie, entre autres, et ce qui me manquait beaucoup, c'est que à la bibliothèque, c'est un lieu qui est proche de la littérature encore, mais on parle pas des livres, beaucoup, à la bibliothèque. Du moins qu'en librairie.
Eh bien, voilà que se termine cet épisode de votre émission littéraire La librairie Cochot. Je m'appelle René Cochot et j'ai la grande joie d'animer cette émission qui vise à mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chapitre de La librairie Cochot.
un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue.
Avec ta botte qui m'écrase le crâne, je chanterai pour qu'il m'entende. Je crois dans un monde meilleur.